Radio Kapi. Oh, Kapi.
Après le naufrage du bateau Merveille de Dieu sur le lac Kivu hier, nous serons à Goma où sont reçus des rescapés et aussi des corps sans vie par différentes structures sanitaires. Parmi les victimes de cet accident, plusieurs sont venus du sud Kivu, de Minova notamment. Et sur place, la population interpelle les gouvernements national et provincial et demande la réouverture de l'axe routier Sake-Bweremana, coupé par les rebelles. Enfin, nous allons revenir sur des accidents connus. Rien qu'en cette année 2024, plus de 400 personnes sont mortes ou portées disparues dans les provinces du Nord Kivu, au Tanganyika, en passant par le Sud Kivu, l'Ituri, le Sud Ubangi et le Maïndombe. Rencontre ce vendredi à Paris en France entre les présidents français et congolais. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC suite à l'agression par le Rwanda et l'évolution du processus de Luanda est au centre des échanges entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, selon le compte X de la présidence congolaise. L'invité de ce midi, c'est Didier Doutimo, rédacteur en chef de la radio Liberté Gbadolité, à l'occasion des 25 ans, le 1er octobre dernier, de cette radio privée. Bonjour à tous, au micro, Noéla Luzitukabambi. 24 heures après le naufrage du bateau Merveille de Dieu sur le lac Kivu, l'heure est à l'identification des rescapés reçus dans différentes structures sanitaires de Goma. À l'hôpital provincial du Nord Kivu, les responsables déclarent avoir reçu 20 corps qui sont gardés à la morgue et 2 rescapés, tandis que l'hôpital Kieshero a reçu plus de rescapés. Les responsables déclarent avoir enregistré et identifié 56 survivants, dont la plupart sont des ressortissants de Minova, parmi eux une trentaine de femmes. D'autres victimes sont prises en charge dans d'autres formations médicales, certains seraient dans un état critique. Denise Loukesso.
Beaucoup de victimes de cet accident secouru par les pêcheurs et la Croix-Rouge locale ont été conduites dans différentes structures médicales. L'hôpital provincial a reçu et enregistré jusqu'à ce vendredi matin 20 corps, 2 femmes rescapées et 2 autres personnes qui sont sous le choc émotionnel. L'hôpital Kieshero a enregistré 56 survivants dont la plupart sont des ressortissants de Minova. Certains continuent à poursuivre avec les soins alors que d'autres ont été renvoyés à la maison après leur rétablissement, a indiqué une source médicale. Tandis que Sebe Kandosho n'a reçu qu'un mineur qui vient d'être libéré. À noter cependant que jusqu'ici, le nombre de passagers à bord de cette embarcation n'est toujours pas connu. C'est faute d'absence du manifeste qui, jusqu'ici, n'est toujours pas encore rendu public par les services habilités. Ce qui accroît la confusion et la controverse. Hier, le vice-gouverneur des provinces a annoncé un bilan provisoire de 23 morts et 57 rescapés. Bilan controversé avec celui du gouvernement provincial du Sud Kivu. Rappelons que le MVMRD a sombré vers 10h locales aux abords du port de Kitoukou à Goma. Les circonstances exactes de l'accident restent floues, si bien que certaines sources évoquent la surcharge et la vétusté de l'engin comme cause ayant conduit à ces naufrages. Une équipe d'enquête a été instituée pour établir les responsabilités. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Au sud Kivu, d'où sont partis la majorité de victimes, après les émotions, l'heure est aux réactions diverses sur ce drame qui a endeuillé aussi des centaines de familles de Goma, de Minova aussi, dans le territoire de Calais et ses environs. Beaucoup de questions restent à élucider et des leçons à tirer de cet accident. La population lance un cri d'alarme au gouvernement, tant national que provincial, pour demander la réouverture de l'axe routier Sake-Bweremana, coupé par les rebelles, afin d'épargner la population de ce genre de drame. Sifamaguro revient ici sur certaines réactions.
Entre autres réactions, notons celle du chef de groupement Mufuni Changa en territoire de Masisi. Muharuro Wetemwami François a, dans un communiqué publié hier jeudi, plaidé pour la réouverture du tronçon Chacha occupé par le M23 depuis près d'une année. Il demande également au gouvernement d'assister les familles des victimes. Ce même cri d'alarme est exprimé ici par l'élu provincial de Masisi, Alexis Baunga.
Il demande au gouvernement de Nord Kivu, le général et major Peter Chirimami, de pouvoir autoriser la réouverture du tronçon routier Sake-Bweremana Minova pour permettre la circulation des personnes et de les biais sur ce tronçon.
Sur le plan économique, Emmanuela Vasikia déplore quant à elle que la seule route qui approvisionne la ville de Goma reste coupée.
C'est vraiment terrible. Les commerçants auront peur. Avec plusieurs naufrages comme ça, ils auront peur.
Pour sa part, Olivier Ndole, défenseur des droits de l'homme et environnemental, Sénégal fustige également des irrégularités observées lors des embarcations et interpelle le gouvernement.
Les gens entrent et payent quand ils sont déjà dedans. Ce sont des bateaux très vétustes. Et même si le M23 serait sur la route là-bas, à qui appartient la responsabilité de chasser le M23 pour que les gens passent?
Goma Sifamagourou, Radio Okapi.
La population de Calais au sud Kivu, elle, monte au créneau pour dénoncer les naufrages sur les lacs Kivu. Le dernier en date est celui du 3 octobre du bateau aux merveilles de Dieu, nous en avons parlé. Mais la veille déjà, une pirogue avait aussi chaviré sur l'axe Moucheni avec la mort d'une femme et un homme était porté disparu, sans oublier les 15 rescapés. Pour cette population, l'une des solutions serait de réhabiliter la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma en passant par Minova. Cela donnerait d'autres options à ces commerçants de passer par la route. Rachel Kessembangu nous en dit plus.
Depuis l'occupation de plusieurs entités dans le territoire de Massissi par la rébellion du M23, la route Minova-Goma est coupée. Pour des raisons sécuritaires, ce tronçon routier est évité par le commerçant qui emprunte alors le lac Kivu pour ravitailler la ville de Goma en vivres. Delphin Birimbi, président de la Société civile territoriale de Kalehe.
Face à cette situation devenue répétitive dans le territoire de Calais, nous avons demandé, nous demandons et nous continuerons à demander au gouvernement de construire la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma, disponibiliser les 4 bateaux pour matérialiser la promesse du chef de l'État à sa population du territoire de Calais lors de la grande naïade qui avait encore coûté la vie à plus de 114 disparus sur les zones du lac Kivu.
Entre-temps, le ministre provincial de transport, voies de communication et désenclavement du Sud Kivu a suspendu, par mesure d'ordre, le chef de poste lacustre de Minova après le naufrage. Suspension justifiée par la surcharge de passagers et des marchandises. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Et puis, puisque nous parlons de ce 1e naufrage en RDC, rappelons que depuis le début de cette année 2024, plusieurs naufrages sont enregistrés sur les différents cours d'eau du pays. Tenez, dans la province du Tanganyika, au moins 24 personnes étaient portées disparues à la suite du naufrage du bateau MV Mama Benita sur le lac Tanganyika dans la nuit de samedi au dimanche 7 avril. Au large du territoire de Kalemi, le mercredi 15 mai, environ 20 personnes sont mortes noyées et plus de 5 tonnes de marchandises emportées de l'Ouganda englouties dans le lac Albert en Ituri à la suite du naufrage d'une embarcation. Quelques semaines avant cela, dans le sud Ubangi cette fois-ci, au moins 18 corps sans vie ont été repêchés, plusieurs autres portés disparus et environ 200 rescapés après le naufrage du baleinière dans la rivière Mongala ont été comptés. Jacques-Yves Molima revient sur d'autres cas de naufrage.
97 corps sans vie repêchés par des plongeurs et 167 rescapés. Tel était, selon l'administrateur du territoire de Bolobo, le bilan du naufrage d'une baleinière survenue dans la nuit de lundi à mardi 11 juin 2024 sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombé. Après ce naufrage, le dimanche 28 juillet au Beach Kambolé dans la ville de Kindu, le gouverneur précisait que le nombre de décès passait de 25 à 36 morts. Pour la société civile du Maniema, ce 1e accident qui survenait 2 mois après celui enregistré au niveau de la chute de Kamimbi, ayant causé la mort et la disparition de plus de 100 personnes, constituait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce n'est pas tout. En août, dimanche le 18, plus de 200 personnes portées disparues, au moins 40 rescapées et 3 corps sans vie repêchés après le naufrage d'une baleinière sur la rivière Lukeni, territoire de Koutou, au Maïndombé. Enfin, le lundi 16 septembre dernier, le bilan du naufrage d'une baleinière survenue sur la rivière Kwango de la province du même nom est passé de 3 à 6 morts et une quarantaine de personnes portées disparues.
Nous en parlions dans le sommaire. Rencontre ce vendredi à Paris en France entre le président français Emmanuel Macron et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la RDC suite à l'agression par le Rwanda et l'évolution du processus de Luanda. Processus qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali, affirme la présidence congolaise sur son compte X. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Les deux présidents Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi se reverront cet après-midi lors de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie organisé à Villers-Cotterêts au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de Paris. C'est après 33 ans que la France accueille cette grande rencontre de l'Organisation internationale de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Fondée en 1970, l'OIF rassemble 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs. L'organisation est dédiée à la promotion du français et à la mise en œuvre d'une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Au total, une cinquantaine des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le partage de la langue française vont participer à ce sommet. Notez que la RDC reste le plus grand pays francophone du monde.
À Béni dans le Nord Kivu, trois militaires des FRDC armés ont braqué une maison de transfert d'argent hier soir au quartier Malépé. Selon des sources locales, ils auraient réussi à s'emparer d'une somme de 7 000 $ américains et de trois téléphones. L'intervention rapide des services de sécurité et la vigilance des jeunes du quartier ont permis de maîtriser ces malfrats. Guylaine Kassassia nous raconte les faits.
C'est puis après 19 heures locales que ces militaires armés ont fait irruption dans cette maison de transfert d'argent. Sur place, ils ont dérobé 7 000 $américains ainsi que trois téléphones dont un utilisé pour les transferts d'argent. En quittant les lieux de leur forfait, ils ont tiré plusieurs coups de feu pour effrayer les habitants. D'après Jeannette Kavuo Vicky Kolaki, la chef du quartier Malépé, ces malfaiteurs appartiendraient à la 32e brigade basée à Maïmoya dans les territoires de Béni. Toujours selon la même source, c'est grâce à la réaction rapide de services de sécurité et à la vigilance des jeunes du quartier Malépé, que ces militaires ont été interceptés à Mambango, à environ 12 km du lieu du braquage, et où ils venaient de jeter dans les toilettes les mallettes qui contenaient l'argent volé. Furieux, des jeunes ont alors exigé la destruction des dites toilettes pour récupérer la mallette qui a finalement été remise aux autorités. Les trois militaires sont depuis lors en détention. Ils seront jugés à flagrance ce vendredi, conclut notre source. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Dans l'ouest du pays, dans la province du Kwilu, Arsène Kassiama, point focal de la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa, est aux arrêts. Il est détenu au parquet près le tribunal de paix depuis vendredi dernier. On lui reproche d'avoir dénoncé la détention irrégulière des enfants mineurs depuis plusieurs mois, sans jugement. Face à cette arrestation, le coordonnateur national de la nouvelle société civile parle d'amusellement de la liberté d'expression. Jonas Tchombela annonce des démarches pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire et d'acharnement contre un activiste des droits de l'homme. Il a été joint par Irène Bomaluzolo.
Nous sommes extrêmement préoccupés sur cet acharnement sur M. Arsène Kassiama à Idiofa par les autorités locales. Est-ce que c'est un crime le fait d'avoir annoncé la présence des mineurs dans la prison centrale d'Idiofa? Je suis actuellement en train de travailler activement pour rencontrer le ministre de la Justice pour poser ce cas de cette détention illégale arbitraire de M. Arsène Kassiama. Trop, c'est trop. C'est vraiment un isolement de la liberté d'expression, c'est l'étouffement même de l'expression démocratique dans notre pays. Et qu'à Idiofa, il y a des hommes et des femmes qui veulent ternir l'image du chef de l'État. Je vais saisir les instances officielles pour cet acharnement et ce déni qui est de façon récurrente fait à ces militants des droits de l'homme. Et nous dénonçons cela avec la dernière mesure. Nous demandons à ceux qui le détiennent illégalement et de façon arbitraire de les libérer purement et simplement, sans atermoiement. Parce que le prendre pour l'intimider, nous considérons cela comme des menaces aux valeurs prônées par le chef de l'État, les valeurs de l'État de droit.
Rappelons qu'au mois de mai dernier, le même militant des droits de l'homme, Arsène Kassiama, a été détenu pendant plusieurs jours. Il était accusé d'avoir tenu des propos discourtois envers une autorité locale, fait qu'il avait rejeté. Une partie de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga est dans le noir depuis environ 2 mois. Cette situation est causée par le vol des câbles. Conséquence, plusieurs structures, dont l'hôpital général de référence d'Ako, ont du mal à fonctionner. D'autres détails avec le docteur Hugues Kiloufia, médecin directeur de cet hôpital. Il est joint par Jean Gandou.
Nous éprouvons des difficultés vraiment par manque d'électricité. La SNEL avait trouvé une solution pour nous connecter à la ligne Kakontwe qui dessert GCK et les autres mining qui sont de ce côté-là. Nous connaissons coupure intempestive. Alors par rapport à ça, nous éprouvons des difficultés dans le fonctionnement de l'hôpital. La morgue, comme vous le savez, c'est une morgue qui dessert toute la ville de Likassi, comme c'est un hôpital de l'État. Avec ces coupures intempestives du courant, on ne sait pas bien conserver les cadavres. Ça, c'est une grande difficulté. Du côté de la maternité néonate, avec l'élevage des prématurés, ça pose toujours problème. La stérilisation du matériel du bloc opératoire et certains appareils de réanimation, on ne sait pas les faire tourner pour une meilleure prise en charge. Nous avons quand même un groupe électrogène par rapport aux pistes des solutions. Un groupe électrogène qui ne fonctionne pas parce que on a connu une panne. Il y a un technicien qui travaille dessus, mais il n'a pas encore remis le groupe en fonction.
Le responsable de la SNEL, Ali Kassi, confirme que cette situation est due au vol des câbles souterrains moyenne tension. Cependant, indique-t-il, compte tenu du déficit de l'énergie électrique, la ligne sur laquelle l'hôpital a été mis connaît un système de délestage. Les travaux sont en cours pour la ligne endommagée et la situation pourra être rétablie ce week-end.
Actualité internationale.
La Tanzanie suspend pour 30 jours les publications en ligne du principal groupe de presse privée. Le groupe Mwananchi est en effet dans le collimateur du régulateur des médias pour avoir diffusé un clip critique du pouvoir. Le 1er octobre, l'un de ses journaux, The Citizen, a diffusé une vidéo évoquant les meurtres et disparitions d'opposants avec pour personnage principal la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan. Un clip jugé nocif pour l'unité nationale par le régulateur tanzanien.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition d'information Didier Doutimo. Il est le rédacteur en chef de la radio Liberté Gbadolité et président du comité organisateur des festivités du 25e anniversaire de cette radio. En effet, la radio Liberté, chaîne mère de Gbadolité, a totalisé le 1er octobre courant 25 ans depuis sa création. À Gbadolité, 3 journées portes ouvertes ont été organisées. Plusieurs autres manifestations ont eu lieu à la place de l'unité de Gbadolité mardi, jour de l'anniversaire. Didier Doutimo parle de cette commémoration dans cet entretien avec Paul Richard Malengela.
Allô Didier Doutimo, bonjour.
Oui, bonjour Paul Richard Malengela, également bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors dites-nous, 25 ans après sa création par le MLC, alors mouvement politico-militaire, cette radio garde-t-elle encore ses objectifs ou son opportunité?
Bien, je vais ici commencer par rappeler que la radio Liberté fut installée le 1er octobre 1999 dans un contexte de guerre de libération par son promoteur jusqu'à la preuve du contraire, Jean-Pierre Bemba Gombo. Principalement, la radio a été installée pour véhiculer l'idéologie du mouvement de libération du Congo et en même temps mener à bon port sa propagande de manière à nuire aux intérêts de ses adversaires. Mais hélas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a la libéralisation des objectifs. Donc nous confirmons que la radio Liberté, pour le moment, accorde la parole à tous les courants politiques, tendances confondies. Donc c'est une radio, elle prône l'ouverture, la tolérance, la liberté, ainsi que la vérité. Donc voilà un peu ça, M. Paul Richard Malengela.
Alors, en tant que média congolais, quel bilan faites-vous des 25 ans de parcours de votre radio?
Le bilan, il est élogé. Le bilan de la radio Liberté Station de Gbadolite, il est élogé. Elle a travaillé jour pour jour 25 ans, malgré tout ce qu'on peut connaître comme difficulté. Mais elle fait un effort de se présenter comme église au milieu du village et c'est une véritable pépinière pour les organes de presse qui existent en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Nord-Ubangi. C'est dans ce sens-là que je confirme que le bilan de la Radio Liberté Station de Gbadolite, c'est un bilan élogé.
Effectivement, Radio Liberté a servi aussi de pépinière à la radio Okapi.
Oui, c'est le cas de Jacques-Yves Molima, de Askin Zigbia Tayoro, aussi Franklin Moliba Cissé, qui avait servi aussi au sein de cette radio, Daniel Tambizoni, je crois Jolie Laure Mbali Voto est aussi passé par la radio Okapi.
Didier Doutimo, c'est quand même à féliciter 25 ans d'existence. Qu'est-ce qui fait la force de cette radio qui a même résisté pendant les moments sombres du parti ou de son initiateur, M. Jean-Pierre Bemba, alors que plusieurs médias politiques sombrent aussi avec leurs leaders?
Oui, la force de la radio Liberté, ne réside rien qu'au niveau de la gestion, hein, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, la gestion financière aussi, pourquoi pas. Tout est canalisé aussi à travers les comités de gestion rigoureux. Et c'est ce qui fait avancer cette radio-là, même en absence de son promoteur, tout ce que nous connaissons, pendant les 10 années passées en prison. Donc nous avons, la radio Liberté n'a fait que pérenniser, encore renforcer la gestion, que je qualifie ici de la gestion orthodoxe. Donc la gestion a été vraiment orthodoxe et continue à l'être d'ailleurs.
Voilà, enfin, une question de curiosité. Quelles sont les perspectives de la Rallye pour les années à venir?
Oui, en termes de perspectives, donc, le comité de gestion tient coûte que coûte à pérenniser cette radio-là, qu'elle vive à jamais. Et puis, arriver, elle compte, cette radio-là compte sur les soutiens de tout le monde. Sans distinction aucune, mais surtout les auditeurs de différentes catégories de personnalités qui aiment cette radio-là. Donc, c'est tout ce que nous pouvons présenter en termes de perspective.
Ben voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter joyeux anniversaire et merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier vraiment. Merci beaucoup. Merci au nom du comité de gestion, au nom du personnel de la Radio Liberté. Nous remercions aussi tous les nombreux auditeurs de cette chaîne de radio Liberté basée à Gbadolité dans la province du Nord-Oubangui. Merci.
Et c'est la fin de ce journal, l'édition en langue française de la mi-journée sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi. Un journal coordonné par Jacques-Yves Moulima, supervisé par Alain Irung. Depuis 5 heures ce matin, à la présentation des éditions d'information, c'était Noëlla Luzito Kabambi dans une mise en onde de Pierre Diassinois. Merci encore de votre fidélité. Restez à l'écoute des programmes du Média de la Paix, Radio Okapi.